Bienvenue à Escal 16-17 avec Fulgence Plat au micro. Bon début de semaine à tout le monde. Qu'on soit fidèle à cette émission ou pas, je vous souhaite un très bon début de semaine. Voilà, malgré quelquefois la pluie, pas de soleil. Bon, j'espère qu'on aura de temps en temps, dans le courant de la semaine, un peu de soleil, quoi, un peu de vitamine D, ça fait du mal à personne. En première partie d'émission, juste après avoir planté le décor de l'émission, salut Thibaut qui sera avec nous pour parler du temps et de ses effets sur notre corps et notre cerveau. Ah oui, voilà, ça c'est parti. Et en deuxième partie d'émission, c'est-à-dire à partir de 16h30, Dorian Vernier-Grand, qui est directeur de la galerie d'art L'Original, qui va nous parler d'un sujet, c'est une première en art visuel à Montréal, Andy Warhol. Oui, et puis ensuite, il y a des tableaux de deux artistes. Hein. Il y a l'étoile montante québécoise Nicolas Craig aussi qui expose là-bas en même temps. Alors, qui est mieux placé que le directeur général de la galerie? Pouvez-vous nous parler de ça? Dorian Vernier-Grand, à partir de 16h30. Restez à l'écoute tout de suite. Je dis bonjour à Luce Thibault qui va nous parler du temps et de ses effets sur notre corps et notre cerveau. Je vous le rappelle, tout ce qu'elle nous raconte ici tous les lundis viennent de ses livres qu'elle a déjà publiés d'ailleurs. Donc voilà, c'est pas inventé là. Voilà.
Non, c'est sérieux, c'est des écrits sérieux. Mais
ouais. Bonjour Luce Thibault.
Tout le monde va comprendre.
Bonjour.
Que je dis. Alors bonjour ouais. Fulgence Blas.
Ouais, j'ai oublié de te dire bonjour avant de...
Ah oui, c'est ça, hein, on est pressé d'entrer dans le vif du sujet.
Allez, tu peux aller maintenant, je te laisse là.
Oui, bien sûr. Alors, ben, quand on dit les effets du temps hein, sur le corps, le cerveau, ben, on parle ben, de vivre longtemps, le temps qui passe. Et puis, je vais vous parler de bien manger pour vivre longtemps.
C'est ça.
Et mieux.
On ne peut pas parler de ça sans parler d'alimentation, bien sûr.
Toujours un peu d'alimentation.
Oui.
Donc, ben, quand j'ai commencé à m'intéresser à bien manger pour vivre longtemps, ben, j'ai trouvé énormément de recherches qui parlaient d'alimentation et de longévité.
Oui. Hein?
Et ce que les scientifiques ont montré de façon tout à fait convaincante, c'est que si on mange moins, eh bien, on peut allonger la durée de sa vie.
Si on mange moins?
Ben, c'est ça, on mange moins. Mais attention,
explique-nous ça alors.
Ces travaux, ben, ce sont des études qui ont été faites chez des petits animaux de laboratoire.
Oui.
Mais ils ont tout de même montré que réduire ses apports alimentaires de, alors écoutez-moi bien, 30 à 50% permettait de vivre plus longtemps. Alors, autrement dit, c'est comme ben, penser à ce que vous avez mangé hier et aujourd'hui, ben, vous devriez peut-être songer à manger la moitié de ça. Alors c'est beaucoup, c'est drastique, mais ça permet de vivre plus longtemps. Alors ça, c'est une des stratégies qui a été qu'on peut adopter. Mais je mets un bémol à tout ça parce que dans les recherches, on ne disait pas si ça pouvait nous aider à vivre en meilleure santé.
Voilà, longtemps et meilleure santé.
Bah, c'est ça, hein, on veut vivre longtemps en santé.
En santé, mais pas vivre longtemps et puis ne plus être capable de se lever pour aller se prendre un verre d'eau.
Non, c'est moins intéressant. Et puis en plus, on veut vivre longtemps, mais en gardant un esprit vif et sain. Hein,
c'est ça, physiquement et mentalement.
Bah oui, c'est ça. Mmh. Alors, des chercheurs américains ont posé une question intéressante à des milliers de personnes. Alors, la question, c'est la suivante, c'est que craignez-vous le plus de perdre lorsque vous vieillirez?
Ah bon?
Que craignez-vous le plus de perdre lorsque vous vieillirez? Alors, c'est une question comme ça qu'on a posée à des milliers de sujets.
Oui.
Vous vous doutez peut-être de la réponse de la.
Oui, bon, moi je peux comme ça à la sauvette, je peux dire bon ben ne plus être capable de me déplacer, ne plus être capable de faire mes choses moi-même quoi, voilà, ne plus être.
Et de te déplacer, eh bien imagine-toi donc que les deux tiers des répondants.
Oui.
Ils ont répondu que ce qu'ils craignaient le plus, c'était de perdre leur capacité mentale.
Tout y va ensemble. Hein.
Ouais. Ben, c'est ça.
Me déplacer et puis ne plus être capable de comprendre un livre que je vais lire ou bien de...
De comprendre le livre que tu vas lire.
Voilà.
Alors, je pose la question à tout le monde. Qu'est-ce que vous craignez le plus de perdre en vieillissant? Et je pense que, on est plutôt d'accord sur les capacités mentales et aussi se déplacer.
Oui, oui.
À cela, j'ajouterais que les statistiques montrent de façon indéniable qu'on vit de plus en plus longtemps.
Oui. Avec la médecine qui s'est très bien développée d'ailleurs.
Ah ben oui, c'est ça. Alors c'est ça. Une des raisons que j'allais mentionner un peu plus tard.
Et ah ben d'accord.
Oui, mais les records de longévité sont battus régulièrement.
C'est ça.
Donc, à quoi est-ce qu'on doit notre propension à vivre plus longtemps? Tu as nommé la médecine, c'est bien, mais il y a aussi les meilleures conditions de vie.
Oui.
Alors, si on pense à l'alimentation, le confort, le chauffage central qu'on a... presque partout dans les pays industrialisés, ça contribue à vivre plus longtemps.
Oui, oui.
Et vivre plus longtemps, c'est vieillir. Hein, vieillir. On vit longtemps, mais on vieillit aussi en même temps. Et puis, il y a énormément de changements qui s'opèrent dans notre organisme quand on vieillit. Et ces changements, ils vont bien au-delà de ce que l'on voit. Hein. Quand on pense vieillissement, on regarde les publicités à la télé, on voit la peau de jeunes personnes qui se plissent tranquillement, les muscles qui se relâchent, et ce qu'on voit peut-être moins, mais ce qui se...
Louise, c'est ça qui fait peur à beaucoup de personnes sur cette terre. Parce qu'ils n'ont pas cette peau encore toute jeune, quoi. Non, la peau change quand on prend de l'âge.
C'est ça, et c'est normal, on peut vivre longtemps, mais il faut penser que la peau, elle vit de la façon dont elle doit vivre.
C'est ça.
Alors, il y a aussi la graisse qui s'installe au mauvais endroit.
Ah.
C'est ça. Et puis même si votre poids, il demeure stable tout au long de votre vie, sachez que votre composition corporelle, elle change.
Elle change, oui. Le poids n'a rien à voir avec la composition corporelle.
Ben oui, les chercheurs le mesurent en laboratoire. C'est certain que vous, sur votre pèse-personne, vous ne verrez pas, j'ai plus de gras ici ou là, vous allez voir le poids total. Mais c'est un fait, parce que plus on avance en âge, plus... En fait, le corps est efficace pour maintenir la masse musculaire, mais il devient plus efficace à accumuler des tissus graisseux.
Oui, mais il y a des gens qui trouvent des solutions, aller voir les chirurgiens esthétiques.
C'est ça, mais c'est toujours à refaire.
Lui, j'étais en train de penser à Berlusconi.
Bon, ok.
L'ancien premier ministre italien qui refuse complètement de vieillir, quoi.
C'est ça, oui. Là, il doit passer beaucoup de temps.
Et c'est ce qu'il fait, d'ailleurs.
Il ne peut plus tirer trop de ficelles. Revenons à notre chronique.
Oui.
Donc, c'est ça, oui, c'est possible, la chirurgie esthétique, évidemment. Mais moi, je vous propose des trucs alimentaires. Je vais vous donner un exemple d'une étude qui a été faite à l'Université McGill. Et qui a démontré que si on mange un peu d'aliments protéinés, par exemple des œufs, du fromage, de la différentes sortes de viande, des légumineuses, du tofu, du tempeh, à chaque repas, ça va vous permettre de freiner l'atrophie de vos muscles et de maintenir un certain tonus musculaire.
Là, tu parles de la dégradation des muscles, quoi, oui.
C'est ça.
Voilà.
Si on mange un peu de protéines à chaque repas, ou si, dans des collations, ça va nous permet de ralentir tout ça. Il y a évidemment l'activité physique. Hein. Si vous faites de l'activité physique, vous allez maintenir vos muscles, peut-être pas dans l'état où ils étaient quand vous aviez 20 ans, mais quand même, c'est une bonne façon de... Et en plus, l'activité physique, c'est bon pour le cœur et le cerveau.
Pour tout.
Oui, pour tout.
Ça permet de bien dormir.
Oui, et c'est bon pour le moral.
Voilà.
Oui. Alors, il y a autre chose aussi qui change quand on avance en âge, c'est la perception des goûts et c'est aussi notre odorat.
Oui.
Alors, les chercheurs ont montré que nous percevons moins bien certains goûts, entre autres le sucré et le salé, et ça expliquerait pourquoi on peut peut-être mettre un peu plus de sel dans nos aliments, sans s'en rendre compte nécessairement, mais ça c'est dû au fait que notre perception de ces goûts-là diminue avec l'âge, et c'est tout à fait normal, nos bulbes gustatifs, ils se fatiguent avec le temps, un peu comme la peau, un peu comme les muscles, ils sont moins efficaces. Et puis, il y a aussi l'estomac. L'estomac peut devenir un peu plus capricieux.
Oui.
pour digérer certains aliments qu'avant on digérait bien, mais là, et l'intestin peut devenir un peu plus paresseux. Donc moi, ce que je vous dis, c'est qu'il est important de penser à ça, éventuellement de revoir notre alimentation, notre hygiène de vie et, comme tu le disais, le sommeil, pour nous adapter à notre corps qui change avec le temps.
Oui. Oui. Et la langue, et quand on, je pense, tu m'excuses beaucoup, je pense bien quand on prend de l'âge aussi, la langue aussi n'a plus cette sensibilité qu'elle avait quand on est encore jeune, quoi, pour sentir tout de suite l'aliment, le goût. Je fais allusion au changement de goût dont tu viens de parler.
Absolument. Mmh. Absolument. Alors, et trop souvent, on demande à notre corps de s'adapter, mais en fait, nous, il faut par notre conscience, nos facultés d'adaptation, s'adapter à notre corps.
Oui.
Si, par exemple, on a des douleurs à un genou, y a des gens qui disent « Non, moi, je marche aussi vite que… » Il faut marcher un peu moins vite.
Voilà.
Alors, il faut adapter aussi ces activités physiques à notre corps.
Mmh.
Hein? On n'est pas aussi performant qu'on l'était il y a 10, 15, 20 ans, mais on peut toujours adapter nos activités physiques.
C'est des trucs standards, c'est des choses standards qu'on néglige quand même. On pense qu'on n'a pas bien d'un diplôme universitaire pour se mettre dans la tête. Bon, ben moi, mon corps ne fait plus avec. C'est ce qui fait que je dis bravo à Roger Federer, le Suisse, tennisman,
oui,
qui vient d'arrêter à 41 ans. Il s'est rendu compte que son corps ne faisait plus avec.
C'est ça.
Voilà.
Alors oui.
Il faut l'écouter.
Alors voilà, et puis il n'y a pas seulement le corps qui vieillit, il y a le cerveau aussi.
Qui vieillit, ouais.
Notre cerveau, il commence à vieillir. Et là, je ne vais pas trop vous décourager, mais je sens que je vais le faire un peu.
Allez, allez, décourage-nous, là.
À vieillir dès notre naissance.
Oui, allez, décourage-nous, là.
Ah oui, ça, c'est pas drôle, hein.
Ouais.
Puis il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches qui a montré que le cerveau se développe et atteint une certaine maturité. Jusqu'au moment de la naissance. Il y a des effets sur la nutrition sont très, très bien connus sur ça. Mais depuis une vingtaine d'années, on a découvert que le cerveau, lui, commence à vieillir quand on est à partir de la naissance. Alors, c'est quand même assez récent, les connaissances dans ce domaine-là, là, sur la nutrition du cerveau qui vieillit. Hein, ça date d'une vingtaine d'années. Et puis, les livres, il y a eu beaucoup de livres sur le sujet, certains bons, certains moins bons, mais quand même, nos auditeurs, auditrices ont des choses à se mettre sous la dent pour connaître les effets du vieillissement sur le cerveau.
Pour ceux qui aiment lire, ouais. Mmh.
Ceux qui aiment lire, c'est ça, et ceux qui aiment nous écouter.
Oui.
Donc...
Tous les lundis, c'est ça.
C'est facile. Et puis même, il y a des livres audio aussi, si vous êtes un peu... si vous faites beaucoup de route ou si vous aimez prendre des marches, écouter des balados, il y a aussi la radio que vous pouvez écouter. Il y a des livres audio. Donc, et moi, ce que je voudrais aussi vous dire, et je vais terminer avec ça parce qu'on prend un peu plus de temps aujourd'hui, c'est que souvent on pense que les facultés intellectuelles, elles vont décliner dans les populations vieillissantes, mais moi je vous dis que ça n'arrive pas forcément avec l'âge, parce qu'il y a des personnes qui vivent jusqu'à un âge avancé en gardant toute leur tête.
Oui. Oui.
Vous en connaissez sûrement.
Et même le physique aussi.
Ah oui, le physique et puis la tête.
Voilà.
Qu'est-ce qu'elles font différemment des autres?
Elles sont disciplinées.
Ça, je vais garder ça pour une prochaine chronique.
Merci.
Je ne suis pas atteint sur ça, là. Les gènes, l'alimentation et tout.
Merci beaucoup, Louise.
Je t'en prie. Et puis, je te souhaite une bonne fin de chronique. Bonne fin d'émission, surtout.
Merci et bonne semaine à toi.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
Hadithi njomza kona duko duko Simtu minjiwa najituma mwenyewe Vipigo na vichinjo sivipati tena huku You know I want you in my life, sito boy bila wewe See you wanted my number, na mimi kakupea Sawa sawa, naomba nijue kama ninakosea Sawa sawa Maga kiki niko hozi nikikuona hadi naishiwa pozi siwezi kupenda tena mabitozi I want a gentleman I swear I'm happy oh I'm happy yes I'll marry you tena wenzenu I'm happy
God, I want to see you uleta ikupeleke out uleta cause there's something about you I can feel it in my bones fikra zangu zipo mbali na wewe tatizo mama kiburi chako kinakuzuia na mimi hapa kiburi changu kinanizuia basi punguza mapozi yako ona tunapoteza muda bwana we oh I just wanna love you love you can I be your man I want you to want me babe I just wanna be the one to save you like I'm superman you're a superwoman
Merci beaucoup, Fina. Fina et avec la complicité de Otile Brown, Superwoman. Voilà, merci beaucoup à Louise Thibault qui est venu nous parler de temps et le vieillissement, disons, le temps et ses effets sur notre corps et notre cerveau. Louise est docteur en nutrition, hein. Voilà, c'est ça. Elle a écrit des livres, tout ce qu'elle nous dit, la sorte de ses livres. C'est pas une chercheuse aussi, une chercheuse, comme vous voulez. Et puis elle est avec nous ici tous les lundis, voilà. De 16h à 16h15 par là, au plus tard. Voilà, maintenant je vais parler un peu de ce tournoi qui vient de se terminer à Londres. Je parle de tennis là, voilà. Moi je ne m'attendais pas à ça du tout, Félix Auger-Aliassime, un Lever Cup, a battu le grand Novak Djokovic. Alors, allez-y, moi quand j'ai vu le résumé du match, parce que je n'ai pas vu le match en direct, j'ai vu le résumé du match, je me suis dit, mais ce garçon... Mon Dieu, il a de l'avenir. Hein. Et puis en plus, en 6-3, 7-6, 3-3 break en deux matchs du terme, l'équipe du reste du monde. Parce que vous savez quoi, Lever Cup, c'est quoi? C'est le reste du monde contre les joueurs européens. Voilà, ceux qui ne sont pas européens, ils forment une équipe ensemble, ils jouent en simple, en double. Et ceux qui sont hors de l'Europe se retrouvent, ils jouent en simple et puis en double aussi. Alors en simple... Félix Auger-Aliassime n'a pas fait cadeau à l'ancien numéro 1 mondial, Novak Djokovic. Ah, ils se sont rencontrés dernièrement en finale ou bien en demi-finale quelque part. Là, c'est Djokovic qui avait eu le dessus cette fois-ci. Félix a dit non, tu ne me battras pas comme ça deux fois successivement. Ça ne marche pas. J'ai dit bravo à ce garçon. Félix, il a quel âge maintenant? Il doit avoir 22 ans maintenant, si je ne me trompe pas. Voilà. Alors, c'était vraiment... Ça a permis à l'équipe du reste du monde de mener 10-8 face à l'équipe européenne. Voilà, c'est comme ça. En réussite, c'est ça. Mais je me dis, mais c'est, ce garçon, il fait son petit bout de chemin d'ici en 2023. On va entendre, même d'ici la fin de l'année, on va entendre beaucoup parler de lui. Et puis, l'année prochaine, on va entendre beaucoup parler de lui. Il gravit les échelons comme ça, parce que les autres ne sont pas aussi constants. Leur génération, c'est ce qui met de soi un peu. S'ils pouvaient garder tous la constance comme ça, voilà, j'allais les dire, c'est les grands, mais ils sont encore jeunes, on verra bien. Peut-être qu'ils vont avoir la maturité, et puis bon, ça va se passer comme ce que les Nadal, les Djoko, les Federer ont fait, quoi. Bon, je leur souhaite un bon vent. Ouais, c'était vraiment, c'est... Mais Djoko, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait réussi un succès en simple, puis en double, mais il a connu la défaite face, le dimanche, face à Oliver Krupp à Londres, c'est passé, face au jeune Félix Auger-Aliassime. Voilà, c'est pas dans la foulée de sa victoire en double du côté aux côtés de Jack Sock, et face à la paire de Andre Murray, Matteo Berrettini, le Canadien s'est offert l'ancien numéro 1 mondial en 2-7 en 1h35 de jeu. Il fallait le faire. Et Félix, il est 7e mondial maintenant. Ouais, ouais. Oui, il était d'abord au début dépassé par le jeu. Il n'a remporté que 32% de points sur sa deuxième balle et 6 points sur 19. Et je me suis dit, quand je voyais le résumé de 17 minutes, j'ai dit, mais oh Félix, qu'est-ce qu'il fait? Il va se faire battre encore par Djoko? Non, ça n'est pas arrivé. Mais il s'est montré impressionnant au service avec 13 as. Et puis, 81% des points gagnés derrière sa première balle, 35-43. Bravo à ce garçon. Oui, il pétait la forme. Moi, je le voyais. Je me suis dit, mais waouh! Il est vraiment dans, il a le vent dans les voiles. Et après, grâce à cette victoire d'ailleurs, l'équipe du reste du monde revient, mène à 10-8 face à l'équipe européenne après avoir mené 8-4. C'est ça aussi. Donc, les deux derniers matchs de la compétition se sont affrontés. C'est Stéphane Tsitsipas et France Tiafoué. Et Tiafoué l'a battu. C'est Félix et Tiafoué qui ont permis à l'équipe du reste du monde d'arriver, d'aller. C'est la première fois d'ailleurs, parce que c'est les Européens qui ont toujours gagné ce tournoi-là. C'est la première fois que l'équipe du reste du monde gagne ce tournoi. Bravo, merci à vous. Et bon, voilà. Et bon, y a d'autres qui ne sont pas allés jusqu'à la fin du tournoi. Rafael Nadal, après son double avec son ami Federer, il s'est dit, non, ça suffit, c'est le vendredi qu'ils avaient joué ce match. Beaucoup d'émotions là-bas, j'ai vu des images, je me suis dit. Alors là, vraiment, celui qui voit ces images et puis il ne coule pas des larmes, c'est qu'il vit sur une autre planète ou bien complètement le mot émotion, c'est pas dans sa vie, quoi. Voilà, c'était tellement beaucoup d'émotions dans l'air, oui. Oui, après l'émotion vécue de vendredi d'ailleurs. Et il a dit, non, j'arrête. Nadal s'est retiré. Son ami aussi, Roger, ami et rival de l'époque, puisque Roger Federer se retire, les deux étaient en larmes. Hein. Ils se tenaient les bras sur le banc. Je regardais ça, j'ai dit waouh, c'est ça le fair play, quoi. Il a été beaucoup, les deux ont été vraiment beaucoup touchés. Surtout quand j'ai vu Nadal là, avec les larmes, je me suis dit waouh, quelle amitié. Même s'ils ont été concurrents, je dis pas ennemis, c'était pas des ennemis, voilà, c'est des gens qui se retrouvaient tout le temps à Monaco, comme j'ai l'habitude de le dire. Ils jouent ensemble, ils s'entraînent ensemble, ils résident pas tous là, mais c'est leur deuxième domicile, voilà. Et puis les organisateurs du tournoi ont annoncé et samedi lui-même il a annoncé aussi à la conférence de presse, non, je me retire pour des raisons personnelles. Il est maintenant numéro 3 mondial, Raphaël. Il attend son premier enfant. Il avait fait le déplacement à Londres afin de jouer aux côtés de son ami Federer, que je le répète, pour la dernière sortie de ce dernier en tant que joueur professionnel. Et c'est le Britannique Cameron Norrie qui a joué en simple samedi face à l'Américain Taylor Fritz. Mais ça n'a pas donné grand-chose. Voilà, j'ai encore du temps, je peux continuer? Oui. Et puis, bon, ben, l'équipe, la team reste du monde, l'équipe reste du monde qui a renversé la team Europe. C'est le premier Lever Cup. Mais c'était quelque chose de. L'autre, il a fait son show là-bas, France Tiafoué. Il a fait son show. Oui. Après 4 échecs, la team reste du monde remporte enfin la Lever Cup. Menée 8-4 à l'issue du double samedi. L'équipe de John McEnroe a survolé la journée du dimanche. Un double, 2 simples gagnés pour l'emporter 13-8 dimanche face à la team Europe de Roger Federer. Il dit, je n'ai pas eu à les remotiver. On devrait gagner 3 des 4 derniers matchs. On savait qu'il pouvait le faire. On avait une grande confiance, a expliqué le capitaine de l'équipe. Incroyable. Serait un euphémisme. Non. Dans cette cinquième édition de la compétition avait été marquée le premier jour par le départ de Federer, comme je l'ai dit. Et puis après un dernier double avec son rival et ami Raphaël, perdu de justesse. Ouais, c'était triste quand même. J'aurais aimé qu'il gagne ce match, mais face aux jeunes, là, il ne pouvait pas gagner. Ah, ça c'est clair. L'émotion et les hommages au vainqueur de 20 titres, un grand chelem, instigateur de ce match d'ailleurs, avait totalement éclipsé l'enjeu sportif du vendredi, terminé sur un score de parité de 2. Et puis la deuxième journée, qui avait semblé confirmer la domination européenne, Matteo Berrettini et Novak Djokovic qui ont remporté chacun leur simple, puis le double, et ils étaient associés comme Sock et Alex de Minor. Mais ça n'a pas donné grand-chose. Et Djoko, l'intouchable, avec ses 35 ans, ouais, c'est ça. Et oui, Félix, il a 22 ans maintenant, avec ses 22 printemps, 6-4, 7-6, donc c'est terminé. Et puis aussi, Tsitsipas, il n'a pas fait le long feu devant France Tiafoe. Ah non, voilà, ça s'est passé, 6-2, 6-3 face à Tiafoe. Et puis facile vainqueur de Diego Schwartzmann. Lors de la première journée, le grec Stefanos Tsitsipas pourrait encore prolonger le suspense et semblait bien parti pour le faire en remportant le premier 7-6-1. On s'est dit, oh, ça va continuer comme ça. Non, mais ça a été autre chose. Alors, Tiafoe qui a été demi-finaliste à l'US Open, il a gardé cet élan, cette vigilance, cette force de frapper. Et puis, sa puissance, sa vitesse de course et son toucher de balle quand c'était nécessaire. Mais il fait beaucoup de fautes, c'est ce que j'ai remarqué quand je vois tous les résumés de ces matchs. Il fait beaucoup de fautes, mais après il se ressaisit, il continue, il frappe là-dedans. Et puis il arrive à aller de l'avant. Et au cours duquel, ce match au cours duquel, elle a laissé filer 4 balles de match. Peut-être au teint, il était atteint. Si c'est pas, c'était atteint au moral. Qu'est-ce qu'il avait? Je ne savais pas. Je le regardais, je lui dis, mais est-ce qu'il va bien? Oh, bon, ok, c'est du sport. Hein. Donc... France Tiafoe a profité de ce match. Il a gagné d'ailleurs pour faire son show à Londres. On n'est plus rien. La sixième édition de cette Lever Cup va se dérouler à Vancouver, en Colombie-Britannique. Chenou ici. Alors, les amoureux de tennis, vous êtes avertis. C'est ici chez nous, si c'est l'année prochaine, 2023. C'est là-bas que ça va se passer. Ou bien, je ne sais pas si c'est tous les deux ans. Je reviendrai sur ça pour vous informer. Restez à l'écoute. Voilà, après la petite pause publicitaire, je vais recevoir Dorian Vernier-Grand, le directeur de la galerie d'art, l'original, il y a une exposition qui se passe là-bas, dans cette galerie. C'est une première en art visuel, Andy Warhol. Et ensuite aussi, en même temps, l'étoile montante québécoise Nicolas Gregg. Restez à l'écoute, à tout de suite.
Vous écoutez Escale 16-17 avec Fulgence Blas.
Oui, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, oui, c'est la deuxième partie de l'émission. Mon invité est déjà au bout du fil. Il va nous parler de la première en art visuel à Montréal, Andy Warhol. Et puis, ces deux expositions aussi à l'étoile montante québécoise Nicolas Gregg, Dorian Vernier-Grand, qui est le directeur de la galerie d'art, l'original. Alors, c'est lui qui est mieux placé que moi pour parler de ces deux expositions, c'est-à-dire que deux artistes qui ont deux styles complètement différents. Mais les 11 œuvres d'Andy Warhol, pour ceux qui ne savent pas, on va rentrer aussi dans la biographie d'Andy Warhol qui a tout un parcours. Il nous a quittés il y a quelques années, bon, en 1987, c'est comme ça qu'il est mort, après une opération. Et puis, bonjour Dorian Vernier-Grand.
Bien le bonjour et merci de me recevoir aujourd'hui.
Et merci d'avoir le temps de venir parler de cette exposition qui a démarré depuis le 15, si je ne me trompe pas. Corrigez-moi si je me trompe de date. Depuis le 15 septembre.
C'est un plaisir de parler de quelque chose qui nous passionne, qui nous anime. Il ne reste que 5 jours pour aller là-bas.
Voilà, c'est jusqu'au 30 septembre 2022. Voilà, comment ça se passe l'expo?
Ça se passe super bien. Écoutez, on a vendu, je vous dirais, 70% des tableaux de Nicolas Gregg.
Oui.
Les tableaux de Andy Warhol vont retourner bientôt à New York. Donc, on est au 163 rue Saint-Paul Ouest, derrière la basilique Notre-Dame. C'est gratuit. Venez les voir avant.
En plus, c'est gratuit.
À Pittsburgh. On est super content de l'expo. Beaucoup de monde est venu, beaucoup de bons feedbacks aussi. C'était un super parallèle que de mettre la carrière d'Andy Warhol avec celle de Nicolas Craig, tous les deux dans le pop art, tous les deux qui parlent de consumérisme à travers leur art,
oui.
Puis tous les deux des fruits de leur époque, avec Andy Warhol qui parle vraiment des objets, des publicités qui étaient révolutionnaires dans son temps,
oui.
Et Nicolas Craig beaucoup plus d'économie de service digital, de la place du corps des femmes dans la publicité, de l'utilisation qui en est faite, de la matérialisation qu'en est faite aussi. Donc c'est cognitivement stimulant, c'est visuellement intéressant, c'est picturalement renversant. Donc on a eu beaucoup de fun et on a toujours de fun puisqu'il y a 5 jours de fun ici.
Oui. Et pourquoi est-ce que vous exposez seulement 11 œuvres d'Andy Warhol?
Parce que il y a beaucoup d'enjeux avec les œuvres de Andy Warhol.
Oui.
C'est des œuvres signées. Alors bon, on essaye de limiter les coûts. Il y a beaucoup de démarches de sécurité aussi par rapport à ça.
Oui.
Donc 11 œuvres d'Andy Warhol dans une galerie qui fait 1200 pieds carrés, ça prend déjà la moitié de la galerie.
Ah bon, d'accord.
Qui est remplie par Nicolas Craig. Donc ça fait un équilibre. Je vous dirais 11 œuvres. C'est parfait, c'était l'équipe parfaite.
Comment se passe la collaboration? Comment s'est passée cette collaboration avec Nicolas? Est-ce que c'est lui qui vous a approché ou bien c'est en fonction de ces œuvres que vous avez voulu faire cette exposition en même temps que les œuvres d'Andy Warhol?
Nicolas Craig était un ermite, c'est un peu le Van Gogh des temps modernes.
Oui.
Quelqu'un d'extrêmement timide et sa timidité n'égale pas son talent.
Oui.
C'est souvent ça pour les vrais artistes, en tout cas dans leur archétype, dans leur stéréotype.
Oui.
Donc on est allé le chercher limite chez lui dans un tour d'ivoire pour lui dire « Hey, viens, on veut tes arts, on veut venir te chercher ». Puis quand on lui a dit « Ouais, on va te mettre à côté de Andy Warhol », il était comme « Mais non je suis pas à la hauteur, nanana.
Ah » C'est pour ça que j'ai posé la question, voilà.
Je viens, et il disait, mais non, je suis pas assez connu encore, nanana. Et on dit, on s'en fout, t'es pas assez connu, t'es un des artistes les plus talentueux à Montréal.
Oui.
Et c'est pas moi qui le dis, c'est le fondateur du Discover Magazine, qui est un des seuls best-sellers de documentation de plus de 300 artistes au Québec pendant plus de 10 ans. Donc, et son fondateur l'a mis parmi le top 3 des meilleurs artistes. Donc, on était comme vraiment,
wow.
On veut te mettre sur ce show. Et c'était la meilleure personne à Montréal et même au Québec pour être à côté de Andy Warhol. Alors, on l'a poussé, on l'a motivé, on l'a suivi, on l'a encouragé, on l'a rassuré. Et on a fait ce show avec lui. Et aujourd'hui, il en est très content.
Moi, je vais passer avant le 30. Je ne vais pas passer le dernier, mais je vais passer là-bas avant le 30. Non, mais je suis allé sur son site pour aller voir. Bon, parce que je connais déjà les œuvres d'Andy Warhol, mais les œuvres de Nicolas, je ne les connaissais pas. Je suis allé sur Surrealism Painting. Voilà.
Yep.
Voilà, pour aller voir ces œuvres-là, je me suis dit, waouh, j'ai raté quelque chose dans ma vie. Hein.
Ouais, c'est fou ce qu'il fait, il est vraiment fort. Puis il a deux styles complètement différents. Là, c'est aberrant de voir que c'est le même artiste derrière les deux styles.
Oui.
Donc il est très très impressionnant là. Même les artistes qui sont très très bons à Montréal sont tous impressionnés par la qualité du travail de Nicolas Craig. Donc on est extrêmement content de l'avoir.
Mm-hmm.
Je vous dirais même qu'il a volé la vedette à Andy Warhol dans l'expo. Là, il y a des gens qui venaient voir Andy Warhol puis que je leur disais oh, finalement c'est laquelle votre œuvre préférée. Ils flashaient tous sur Nicolas Craig. Puis c'est pour ça qu'on a fait ce show-là aussi. Andy Warhol, c'est un excellent, c'est un artiste connu, donc c'est une excellente vitrine.
Mmh.
Mais on savait que les gens qui allaient aimer le style d'Andy Warhol allaient aussi aimer
le style de Nicolas. Voilà.
Mmh. Donc finalement, les gens ont vraiment accroché. Puis 3 fois sur 4, l'œuvre favorite.
Oui. J'ai dit merci à vous et à toute l'équipe de la galerie d'avoir pu le convaincre et de venir exposer en même temps que les œuvres de d'Andy Warhol, parce que là, ça lui permet de se dire ouf, si j'avais refusé, peut-être que j'ai raté le coup, quoi.
Ouais, exactement. Bah, exactement. Mais il a fait preuve de courage parce que. On voulait refaire ce show, puis peut-être qu'on va le faire, on ne sait pas encore, avec d'autres artistes connus. On parle Picasso, Mephisto Bates, on parle de Pascal Foisy et Basquiat. Puis vraiment, Nicolas, il s'est prêté au jeu, il a dit « Allez, let's go, on teste ça ». C'est la première fois que la galerie, qui est un organisme plutôt lucratif, qui est aussi d'ailleurs au 44-55 rue Saint-Denis, là on peut rencontrer les artistes, c'est vraiment le... le point névralgique de l'organisme qui est très très authentique. On peut inviter ces objets se faire recycler. On peut discuter avec les artistes et les voir peindre. Donc c'est à 30 secondes du métro Mont-Royal, le 44-55 Saint-Denis. Les personnes n'étaient pas aussi touchées que par ce lieu-là, parce que Nicolas Craig, c'est quelqu'un de très très timide. Et du coup, c'est difficile parfois de communiquer avec les gens. Alors, les gens le voyaient pas, puis c'est difficile là. C'est un vrai artiste, là. C'est le Van Gogh moderne.
Comme beaucoup d'artistes, vraiment. Dorian, c'est vrai. Comme beaucoup d'artistes, c'est sûr. Quand ils sont à l'œuvre, qu'ils sont un autre personnage. Sinon, quand ils sont pas à l'œuvre, ils sont la plupart du temps introvertis, quoi. Ils sont timides, comme vous le dites. Mais faut pas le voir avec son pinceau, avec ses pinceaux, hein.
Ouais.
C'est un autre être humain. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, il faut pas qu'on tienne pour acquis que tout le monde connaît Andy Warhol, hein. Attention. Alors, est-ce qu'on peut parler un peu de lui, ce peintre américain Andy Warhol, qui a été l'un des artistes les plus importants du XXe siècle, hein.
Ouais. C'est vrai.
Voilà, les sérigraphies de Marilyn Monroe, on voit ça partout. Les choses de Coca-Cola. On l'appelait le pape du pop art. Comme on dit.
Exactement. Ouais. Il est connu pour les Campbell Soup aussi. Si vous voyez ces espèces de cannes de soupe rouge et blanche que vous avez sûrement vues à l'école quand vous étiez plus jeune dans vos premiers cours d'art plastique.
C'est ça.
Les œuvres d'Andy Warhol, on dit que c'est un autoportrait de la culture américaine. C'est le premier autoportrait où vraiment on était centré sur la publicité, puis des choses vraiment colorées, flashy, faites pour attirer ton œil à tout prix. Donc c'est le pape du pop art, comme vous dites.
Oui. Quand j'ai vu ça, j'ai dit ouais, il mérite ça, parce que c'était une époque, hein, vraiment, il fallait oser. Et puis moi je me rappelle un peu des sérographies de Marilyn Monroe. Je me dis mais tout le monde connaît ça, c'est lui, c'est bien dit, ça, c'est sa marque. Et puis les choses de Coca-Cola, je dis mais ça là, celui qui dit je ne connais pas, bon, faut pas qu'on tienne ça pour acquis, hein.
Tout à fait. Et d'ailleurs, une autre chose qui est moins connue au sujet d'Andy Warhol, il y a plein de choses qui sont méconnues d'Andy Warhol. Tout à l'heure, vous parliez de sa mort. Il s'est fait tirer dessus par une auteure féministe qui est encore étudiée aujourd'hui, qui est dans le plus extrême féminisme, pour avoir été connue. Elle l'a dit d'ailleurs juste avant de tirer sur Andy Warhol. Elle a dit « Tout le monde parlera de moi une fois que j'aurai tiré sur Warhol ». Et Warhol a survécu. Il n'est pas mort de la balle, mais il a failli.
Oui, ça, c'était en 68. Ça, juin 68, il a été victime d'une tentative d'assassinat.
C'est fou.
Oui, cette histoire.
Ça. Mmh. Et d'ailleurs, cette personne-là, il la connaissait parce que il était scénariste. De base, il n'est pas peintre, Andy Warhol. Et d'ailleurs, il n'a pas réalisé énormément de graphismes qui sont derrière ses œuvres. Ses œuvres ont été réalisées par Steve Kaufman, qui était un jeune étudiant. Mmh. Il a rencontré celle qui avait essayé de le tuer. Dans un théâtre, en fait, on lui avait proposé une pièce de théâtre, et la pièce de théâtre était beaucoup trop, alors qu'Andy Warhol était quand même très ouvert, était beaucoup trop sexuelle et vulgaire du point de vue de Andy Warhol.
Oui.
Il l'avait dit à l'autrice de la scène, et l'autrice avait pris le commentaire extrêmement personnel, et du coup, s'est dit, bon, bah écoute, la meilleure façon de faire parler de mon scénario, c'est de commettre cet assassinat contre le grand Andy Warhol, qui était déjà très connu à l'époque.
Oui.
Ça faisait office de vengeance et de publicité à la fois. Mmh. Donc voilà, c'est une partie de la vie de Andy Warhol qui est intéressante. Andy Warhol n'était pas peintre à la base, il était scénariste dans le théâtre.
Oui. Il était vraiment, c'était un documentaire. Et oui, il produisait des films aussi, hein.
Oui, exact.
Ouais. Eat and Kiss, je me rappelle, j'ai parcouru un peu son. Mais cette femme-là, cette écrivaine féministe là, qui a tiré, il a été blessé à l'abdomen, au poumon, à l'œsophage, et puis il s'en est jamais remis de ses blessures. C'est suite à ça qu'il a eu l'opération.
C'est traumatisant, hein.
Oui.
Enfin, faire tirer dessus, c'est quelque chose qui est commun. Puis je pense que psychiquement, là, ça doit être difficile. Surtout que c'était quelqu'un qui était très populaire, qui était très social.
Sa
carrière, il l'a bâti sur ses relations. Alors, quand une personne de notre réseau nous tire dessus, ça doit renverser pas mal d'acquis dans la tête d'Andy Warhol à ce moment-là.
Oui.
Donc, c'est difficile pour lui.
Oui. Est-ce qu'on peut dire qu'Andy a été un artiste excentrique?
Oui, alors oui, c'était le roi de la fête à New York avec The Factory à l'époque. Donc oui, c'est 100% d'artiste excentrique. Puis c'est un artiste aussi multipotentiel. Il a fait de la photo, il s'est essayé au dessin, il était producteur de films, il était scénariste de films, il a fait la sérigraphie. C'est le premier à avoir voulu démocratiser l'art, l'un des premiers, en justement amenant le concept de Prince, avec des éditions certes parfois limitées,
oui.
Mais où quand même il y avait plusieurs exemplaires de chacune des œuvres. Puis ça faisait du sens aussi avec les produits de consommation qui peignaient, qui existaient en des milliards d'exemplaires.
Oui.
Donc oui, c'est un artiste qui est excentrique et qui est révolutionnaire pour son époque.
Non, mais c'est vraiment quand je vois un peu son parcours, je me dis waouh. Est-ce que ça date pas d'aujourd'hui, cette histoire de vouloir assassiner un artiste? Bon, ben aujourd'hui ça existe encore. Il y a des gens qui n'aiment pas être critiqués dans leur vie de tous les jours. Et je me suis dit, bon, ben ce monsieur qui est né, oui, c'était une autre époque, hein, né en 1928, à l'époque, fils d'immigré tchèque. Ouais. Ouais.
Ouais, comme on dit, qui a de l'attention, mm-hmm. Génère de la tension, en deux mots.
Oui.
Wow. C'est vrai aujourd'hui, effectivement, tous les gens qui sont célèbres, même si un jour... Ah même, regardez, on va faire le parallèle, même Nicolas Craig, de son petit succès, il commence à être un peu connu à Montréal, et un petit peu connu à Paris aussi, il a déjà aussi de l'attention par rapport à ses œuvres. Il y a beaucoup de représentations de nus, notamment de femmes, et il me parlait, il me dit, ouais, sur Instagram... J'ai reçu un message d'un compte où il n'y avait aucune information qui me disait « Hey, pourquoi tu dessines des femmes toutes nues ?» Et il a répondu tout simplement parce que je trouve ça beau. Je trouvais sa réponse d'une simplicité déconcertante.
Ça n'arrête pas la menace des artistes.
Donc, ouais. Donc oui, il y aura toujours de la tension là où on mettra les projecteurs.
Oui.
Ça fait partie du jeu. On n'en est pas toujours conscient quand on commence. Là, Nicolas Craig était vraiment étonné de recevoir ces messages, ces critiques. Mais heureusement, il s'en amuse. Et je pense que c'est en prenant les choses avec légèreté qu'on est capable de continuer d'avancer. Mais Marilyn Monroe, qu'ils ont d'ailleurs tous les deux représenté, c'est l'œuvre qui s'est vendue la plus chère au XXIe siècle. C'était une œuvre d'Andy Warhol. Mais il y en a aussi une de Nicolas Craig qui est à la galerie d'ailleurs.
Oui.
C'est ça qui l'a tuée, en fait. Elle est réalisée avec les stampes fragiles à la galerie. Et c'est vrai que c'est toute cette attention-là qui l'a fait craquer psychologiquement, parce qu'il y avait une tension énorme autour de Marilyn Monroe, il y a les paparazzi,
oui.
Il y a les attentes qui sont faites par le public aussi, et ça l'a détruit, ça l'a fait tomber en dépression, puis ça l'a mis jusqu'à la mort, en fait.
Oui, ça détruit, ça dit qu'il y a trop de tension, trop de pression comme ça sur les épaules d'une personne, que ce soit un homme ou bien une femme, et il faut avoir le mental pour pouvoir résister à ça, quoi.
Exactement.
Voilà.
C'est des humains après tout. Hein.
Oh ouais.
Nicolas Craig, Andy Warhol, oui, ce sont des gens qui sont admirés, qui sont parfois détestés, parce que bon, forcément, vu qu'ils sont plus connus, on parle plus d'eux.
Oui.
Mais ce sont quand même des humains, là, avec deux bras, deux jambes, un estomac, un cerveau. Donc il faut, même si on essaie très bien d'être critique dans l'art, puis de remettre en question les personnalités aussi, il faut quand même être conscient que ce sont des humains après tout.
Après tout. Quel est le dernier message pour ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas encore vu, qui ne sont pas encore passés à l'exposition, pour aller découvrir les œuvres d'Andy Warhol et de Nicolas Craig, avant de vous laisser?
C'est qu'il vous reste simplement 5 jours, que c'est gratuit, que c'est au 163 rue Saint-Paul-Ouest, à 4 minutes de la station Place d'Armes, que si vous aimez l'art, que vous voulez rencontrer des artistes, il y a aussi le 44-55 rue Saint-Denis à 30 secondes du métro Mont-Royal, qui est sur 2 étages, qui est une galerie qui est super, avec les meilleurs talents que vous pouvez trouver à Montréal,
oui.
Dans un univers très contemporain, très pop art, très figuratif, et que c'est le seul endroit qui existe comme ça, où vous aurez la chance de pouvoir rencontrer les peintres qui se cachent derrière les œuvres. Que toutes les deux sont gratuites, donc peu importe qui vous êtes, que vous soyez un client venu acheter des dizaines d'œuvres pour encourager la culture, ou que vous soyez quelqu'un qui n'a pas de budget mais qui a envie de faire une sortie sympa avec ou sans ses enfants, vous êtes tous les bienvenus. Alors je vous redonne les adresses, 163 rue Saint-Paul-Ouest, c'est là où il y a Warhol, c'est pendant 5 jours encore, et puis après il va y avoir 2 expositions, notamment tournées vers le street art à Montréal. Et le 44-55 rue Saint-Denis, là ça déborde, il y a 3 vernissages sur les 3 prochaines semaines qui sont annoncées. Donc venez nous voir, c'est vraiment le fun et c'est gratuit.
Merci beaucoup Dorian Verdier, grand directeur de la galerie d'art L'Original, pour cette exposition qui se passe avec 2 grands artistes. Un qui nous a quitté déjà, Andy Warhol, et puis un qui vit encore, qui est de notre génération, Lui, il n'est pas du 20e siècle, c'est le 21e siècle.
Encourageons les vivants, let's go.
Voilà, les vivants. Et c'est l'étoile montante québécoise, Nicolas Craig. C'est l'art visuel, allez-y, les encourager là-bas. Merci beaucoup, Dorian Verdier-Grand. Merci beaucoup. Et puis, ouais, bon reste de vernis, d'exposition.
Merci, on t'attend le 30, avant le 30.
Avant le 30, je vais passer.
Yes, go, toi, à la radio, tu vas pas le faire, je t'attends. Okay,
ouais. Oui, je vais passer, Dorian.
Super.
Allez, à bientôt.
Allez, bye bye.
Bye bye.
Times that I worked hard because I believed that life could have meaning through things I achieved. You knew I was looking for you. Every time I thought romance might feel a hole, that incomplete feeling still lived in my soul. Oh, you knew I was looking for you. Down 100 highways, empty pursuit, in a thousand foolish things I went through, didn't know.
Zach Williams, Looking for You. Merci. Alors, je dis merci à notre invité là qui est venu nous parler de cette exposition. Double expo, je peux dire, hein, les œuvres de Andy Warhol, 11 œuvres signées même d'ailleurs, et le jeune Québécois, la nouvelle génération. Andy Warhol, c'est le 20e siècle. Bon, et l'autre, Nicolas Craig, ça, c'est le 21e siècle. Ça a commencé le 15 septembre et ça va se terminer le 30 septembre. Pour tous les visiteurs et curieux d'ailleurs, n'oubliez pas, c'est gratuit. Vous n'avez rien à payer. Si vous voulez découvrir les œuvres de Andy Warhol et puis les œuvres du jeune Québécois, cette découverte, cette relève québécoise, en art visuel. Allez-y, ne ratez pas cette opportunité jusqu'au 30 septembre. C'est situé où là, permettez-moi, c'est situé au 163 rue Saint-Paul-Ouest dans le Vieux-Montréal. Allez-y, profitez, vous avez le temps jusqu'à la fin de la semaine, c'est-à-dire le 30, c'est le vendredi si je ne me trompe pas. Oui, oui, jusqu'au vendredi. C'est gratuit, vous ne payez pas pour rentrer. Si vous arrivez que vous avez les moyens de vous acheter un tableau, pourquoi pas, sinon pour le plaisir des yeux. Voilà, comme l'a dit le directeur général Dorian Vernégan. Allez-y, Verdier Grand, ne ratez pas cette opportunité. Voilà, c'est pas demain qu'on va réexposer les œuvres d'Andy Warhol à Montréal. Bon, c'était les 11 œuvres d'Andy, hein, signées. Certaines sont signées de sa propre main. Voilà, présentées en toute première en art visuel à Montréal. N'hésitez pas. Voilà, je vais revenir sur le sujet dont je parlais la semaine passée d'ailleurs, le système solaire. La mission DART pour dévier un astéroïde, des petits télescopes pourraient même visualiser l'impact. C'est aujourd'hui. Peu après 19h, hein. La nuit du 26, aujourd'hui c'est le 26 au 27, donc c'est peu après 19h, la sonde DART de la NASA devrait percuter un astéroïde afin de tester pour la première fois une technique de défense planétaire. Alors l'événement sera scruté par une batterie de puissants télescopes, mais selon des récents calculs, il pourrait être observé aussi par des astronomes amateurs, pour ceux qui ont l'équipement nécessaire chez eux, et puis aussi de plus modestes instruments. Voilà. Lancé en novembre 2021, depuis la base militaire de Vandenberg en Californie, la sonde américaine DART, qui signifie également fléchette en anglais, est désormais toute proche de sa cible. Ça va se passer aujourd'hui, peu après 19h, 19h14, quelque chose comme ça. Voilà. Si je mets pour ceux qui sont en Europe, c'est minuit quelque chose, minuit 14. Et ceux qui sont ici, à l'heure de l'Est, 19h14, ça va être ça. Si vous avez des télescopes, profitez-en. Ah oui, fléchette désormais toute proche de sa cible. Donc l'astéroïde Dimorphos, qui mesure 160 mètres de diamètre et orbite à quelques 11 millions de kilomètres de notre planète Terre. Objectif de la mission, c'est de percuter de plein fouet cet astéroïde afin de tester notre capacité à dévier un objet céleste menaçant. Une première dans l'histoire de l'humanité. Alors, on espère que ça va marcher, hein, parce que si ça marche pas vraiment, on sait pas où ça va tomber, là. On sait... hein, Maurice? On sait pas où ça va tomber si ça marche pas. Alors, un nanosatellite au plus proche de l'impact. Si tout se passe comme prévu, la collision devrait se produire dans la nuit d'aujourd'hui du 26 au 27 septembre aux environs de 19h14, très précisément, heure de l'Est, et sera observé depuis l'espace par le nanosatellite Licia Cube, Light Italian Tube Assist for Imaging of Asteroid, embarqué par la sonde DART et largué peu avant le crash. Voilà, je suis bien curieux et hâte de voir les images d'ailleurs. Et depuis la Terre d'ailleurs, par une batterie de puissants télescopes internationaux comme le Lowell Discovery aux États-Unis, l'observatoire de Las Campanas au Chili ou encore le grand télescope des îles Canaries en Espagne. Éjection de matière, mais l'impact pourrait être visible aussi par de petits instruments. Voilà, comme disent les spécialistes, les astronautes d'ailleurs, elles se fondent en se fondant sur des paramètres bien déterminés, et comme la masse de 570 kg ou la vitesse de la sonde 24 km/h, et d'autres plus incertains, tels la densité de l'astéroïde 2200 km3. Voilà, c'est pas la petite pierre d'à côté, hein. c'est costaud, oui, oui. Alors, ils ont calculé que les objectifs de matière dus à l'impact pourraient atteindre un maximum de 5710 m3. Or, si 5% de ces éjectats correspondent à de fines poussières, la magnitude apparente atteindra 6,5 avec une incertitude de 1,5, quoi, voilà. Ce qui rendrait possible les observations de l'impact de DART sur Dimorphos avec des petits télescopes terrestres. Voilà, c'est ce qu'ils disent les chercheurs. Alors, vous qui en avez, moi j'en ai pas, voilà. Sur ce, je vous quitte. Soyez, si vous avez des télescopes, c'est ce soir, à 19h14 aux environs. Admettez-vous quelque part pour regarder ça. Voilà. Merci à toi, Maurice. On se retrouve pas le vendredi prochain, mais le lundi d'après. Merci à Louise Thibault. Merci à notre invité Dorian Vernet, un grand directeur de la galerie d'art, l'original, Et puis merci à nos fidèles auditeurs. On les retrouve, moi je les retrouve demain. Et prenez soin de vous, de vos minutes, et tendez la main aux autres, ceux qui sont dans le besoin. Sur ce, je vous dis ciao.